Bénédicte-Henri Révoil, nouveau conte extraordinaire, un tête-à-tête avec une panthère. Je remontais un jour le Mississippi au-dessus de sa jonction avec l'Ohio, et je trouvais la navigation interrompue par les glaces. Cette congélation inattendue me contrariait fort, mais je n'avais d'autre parti à prendre que celui de prier mon batelier, un Canadien très expérimenté, de me conduire dans quelque village riverain pour y attendre la débâcle. Ce brave homme me mena dans un petit endroit nommé le Tawapati Bottom, où le Mississippi décrivait une grande courbe. Les eaux étaient fort basses, le froid excessif, et de toutes parts la neige couvrait le sol. Le premier soin de mon Canadien fut de préserver son embarcation des atteintes des blocs de glace. Il alla couper des troncs d'arbres dans la forêt voisine, qu'il amoncela les uns après les autres autour du bateau, de façon à le préserver de la pression des glaces flottantes. Cela fait, nous nous établîmes dans une masure, louée par un des habitants du village pour quelques dollars, et après en avoir soigneusement bouché les fissures, nous pûmes y allumer un excellent feu pour réchauffer nos membres engourdis. Mais comme le séjour dans une cabane enfumée n'avait rien de bien gai, et que nous n'étions pas assez ours pour nous dormir engourdis dans cette tanière, nous songeâmes à occuper nos loisirs à la chasse. Les bois du voisinage étaient remplis de gibier. Les cerfs, les opossums, les raccoons et les dindons sauvagesses trouvaient à portée de fusil et venaient rôder jusque devant notre porte. Sur les glaçons de la rive voisine, opposée à celle où nous nous trouvions, s'étaient abattues des troupes de cygnes. Et les coyotes affamés nous donnaient le spectacle d'un affût toujours déjoué par la jante empennée, aussi fine, pour ne pas dire plus, que ses ennemis à robe poilue. Rien n'était plus curieux que de voir ces oiseaux, aux plumes immaculées, accroupis sur la glace, mais attentifs au moindre mouvement de leurs insidieux ennemis. Un coyote faisait-il mine d'approcher, fût-ce même à 100 mètres. Aussitôt, la trompette d'un cygne retentissait et on voyait toute la bande ailée se dresser et produire en courant sur la glace un bruit qui ressemblait fort au roulement du tonnerre. Et tout à coup, ils s'envolaient d'un commun accord, laissant sur la terre ou la glace les coyotes désappointés et réduits à chercher à tout autre moyen pour déjeuner ou pour dîner. Les nuits étaient excessivement froides et nous entretenions, mon Canadien et moi, un excellent feu, car le bois ne manquait pas. Vert ou mort, peu importait, pourvu qu'il brûlât, et quand nous étions rentrés le soir, rapportant de nos excursions si génétiques que force gibier, nous n'avions qu'à choisir à notre goût du poil ou de la plume pour assasier notre appétit formidable. Le poisson figurait également dans le menu de nos repas. En faisant des trous dans la glace, mon batelier se procurait, avec des lignes de fond, de très belles anguilles, du saumon et des halibuts, sortes de brèmes de rivière qui remontent le Mississippi jusqu'à sa source. Une seule chose indispensable pour un Européen manquait à notre confortable existence. C'était du pain. Bon, si nous avions eu de la farine, rien n'eût été plus facile que de pétrir et de faire des fougasses qui eussent été les bienvenues. Mon Canadien, qui était homme de ressources, me laissa un matin pour se rendre à quelques miles dans les terres où il savait trouver un boulanger. Il revint en effet le lendemain, rapportant du pain frais et un demi-baril de pure primed flour, qui nous servit à confectionner des pâtés pour varier notre ordinaire. Nous étions ainsi campés depuis 5 semaines, et les eaux avaient toujours continué à baisser, et, couchés sur le côté, notre embarcation était complètement à sec. Sur les deux rives du Mississippi, les glaçons amoncelés formaient de véritables murailles. Chaque nuit, le Canadien ne dormait que d'un œil et allait d'heure en heure s'assurer de l'état des choses. Vers 5 heures du matin, un certain dimanche, il se leva tout à coup en s'écriant « La débâcle, sœur, la débâcle! Au bateau, prenez vite votre hache pour me donner un coup de main, ou la barque est perdue !» Nous courûmes immédiatement sur la rive. En effet, la glace se brisait de toutes parts avec un fracas pareil à celui des mitrailleuses. Les eaux s'étaient subitement élevées, eu égard au débordement du Mississippi gonflé par l'Ohio, et les deux courants d'eau se heurtaient avec fureur. Des blocs congelés se détachaient par larges bandes, se dressaient, retombaient avec un épouvantable fracas. Ce qui était curieux à constater, c'est que la température, la veille à 9 degrés au-dessous de zéro, était remontée à 7 degrés et amenait le vent et la pluie. L'eau gisclait à travers toutes les fissures de la glace, et quand le jour parut, lorsqu'il nous fut possible de nous rendre compte de la situation, le spectacle nous parut à la fois redoutable et grandiose. La masse des eaux était violemment agitée. Les glaces, brisées en millions de blocs, flottaient sur le courant liquide, et l'homme le plus hardi ne se fût certes pas risqué sur ces morceaux ballottés par les vagues. À grands coups de hache, les troncs d'arbres qui avaient préservé l'embarcation contre la congélation se détachèrent et s'en allèrent à volo. Et bientôt, notre embarcation se retrouva à flot et put se mettre en mouvement. Tout à coup, un horrible craquement nous fit tressaillir. La digue formée en amont par la glace céda, et le courant du Mississippi reprit son cours ordinaire. En moins de 4 heures, la débâcle avait été complète. Le soir même, nous étions en route, emportés par notre embarcation que le Canadien avait grand-peine à diriger. Nous avançâmes ainsi pendant toute la nuit, éclairés par un admirable clair de lune qui nous permettait de nous diriger à travers les méandres du fleuve débordé. Un matin, tandis que mon batelier dormait pour prendre quelque repos, un choc épouvantable me renversa au fond de l'embarcation qui venait de toucher sur un chicot. Le Canadien se releva d'un bond et vint se placer près de moi. « Qu'est-ce ? » me demanda-t-il. « Mais ma foi, je l'ignore. L'essentiel, c'est qu'une voie d'eau ne se déclare pas, car nous sommes en plein fleuve. » Il n'y aurait pas moyen de nous en tirer d'affaire. Le bateau était devenu immobile. Nous n'avancions plus. Il était enchevêtré dans les racines d'un de ces arbres géants qui voyagent la tête en bas dans le Père des eaux. Notre matinée et la plus grande partie de l'après-midi se passèrent à renouveler nos efforts pour dégager notre demeure flottante. Il était dangereux de passer ainsi la nuit qui allait venir au milieu des glaces flottantes. Il fallait atterrir coûte que coûte. Il était 5 heures du soir, l'obscurité se faisait et je demandais à mon batelier quel était son avis. « Êtes-vous bon nageur ?» me dit-il. « Bon, ma foi, je ne suis pas de première force, mais je pourrais aller pendant un mile, à moins que le froid ne me saisisse. » « Il n'y a pas à hésiter, il faut nous diriger vers la rive gauche du fleuve. Nous allons accrocher au passage une bille de bois semblable à celle que vous voyez flotter, ça et là. Vous en prendrez une, moi l'autre, et nous voyagerons vers la terre ferme. J'aperçois là-bas un village. Nous irons nous y réchauffer et faire sécher nos habits. Allez, buvons un bon verre d'eau de vie et en route. » Ce qui fut dit fut fait. Dès que nous nous fûmes procuré une bille de bois, nous nous affalâmes dans le Mississippi en nous recommandant à la Providence. La première impulsion fut terrible. Le froid me glaçait jusqu'à la moelle des os. Mais peu à peu, grâce à la bonne gorgée du brandy que j'avais avalé, La chaleur animale revint et je regardai à droite et à gauche où avait passé mon Canadien. Il avait disparu. Je le hailai. Il ne répondit pas. Mon anxiété était fort grande. Je m'aperçus que ma pile de bois s'en allait à dérive et je me mis à cheval sur ce tronc d'arbre, ce qui n'empêchait pas que j'avais de l'eau jusqu'à la ceinture. Le poids de mon corps, placé à l'extrémité de l'arbre épave, se faisait pencher en bas, et je me disposais à m'avancer vers le milieu, lorsque je vis d'une façon vague une forme mouvante à l'autre bout. Était-ce mon batelier? Je l'appelai, il ne me répondit pas. Peu à peu, mes yeux se firent à l'obscurité, et je compris que j'avais une bête pour compagnon de navigation fluviale. Une éclaircie de lune me fit voir un double éclat fulgurant, celui des yeux de la bête. C'était une panthère de très forte taille qui me faisait vis-à-vis. Je n'osais faire le moindre mouvement, dans la crainte d'exciter la colère de cette vermine. Quoiqu'armé de mon ball knife, ce grand coutelas dont se servent tous les Américains trappeurs ou pionniers, je me sentais disposé à ne rien dire, à ne rien faire, tant qu'on ne m'attaquerait pas. Nous voguâmes ainsi pendant une heure interminable, sans ni l'un ni l'autre, la bête ou l'homme, songer à remuer. On eût dit que nous jouions à la balançoire et ce mouvement d'oscillation n'avait rien de très récréatif. Comme je savais que le regard humain a le plus grand pouvoir sur la bête féroce, mes yeux ne la quittaient point. J'en étais à me demander comment se terminerait ce dangereux tête-à-tête, lorsque je m'aperçus que nous approchions d'une île envahie par l'inondation, et l'on voyait les branches des arbres et les rochers à la surface du Mississippi. Je pris la résolution d'aborder dès que ce serait possible et de laisser la panthère continuer sans moi ce voyage aquatique. À un moment donné, le tronc d'arbre sur lequel je me cramponnais passa à 3 mètres d'une roche plate. Je dégageai ma main et me laissai aller à l'eau. Au même instant, j'entendis un bruit qui ressemblait à une chute. Jetant les yeux du côté d'où venait ce son, je découvris à une portée de la main la panthère qui s'avançait vers l'endroit où je voulais aborder. Je crus d'abord qu'elle allait m'attaquer et je jurai de me défendre. Il n'en était rien. Elle aborda la première, mais je la vis s'accroupir à l'angle de cet îlot, large à peine d'une dizaine de mètres. Je me hissai à mon tour sur le rocher, et je regardai avec précaution autour de moi. Fait bizarre à consigner. Nous nous trouvions sur une des îles du Mississippi, et plusieurs mamelons de ce pic élevé étaient couverts d'animaux de toutes sortes, qui avait fui l'envahissement de l'eau en gravissant peu à peu les hauteurs. 4 daims, 1 dicors et 3 biches, 1 ours noir, 1 chat sauvage, 2 raccoons, 1 opossum, 2 coyotes à poils argentés et 1 fouine musquée qui empestaient le voisinage, telle était la société au milieu de laquelle je me trouvais. Mon étonnement fut extrême en apercevant la réunion inattendue de toutes ces créatures, mais ce qui redoubla ma stupéfaction, ce fut de voir la façon dont tout ce monde-là se comportait vis-à-vis les uns des autres. Boucan semblait faire attention à ses voisins. L'aube nous surprit tous dans cette position hétéroclite. Notre arche de Noé ne manifesta pas la moindre velléité de guerre civile, d'hostilité réciproque. Tous étaient matés, comme je l'étais moi-même. Nous souffrions de la faim particulièrement, mais nous demeurions immobiles. J'eusse volontiers découpé un steak dans le filet de l'un des cerfs, mais Pouvais-je faire une infraction à la paix générale et amener la rupture du statu quo de paix? La journée se passa dans ces transes morales et physiques, et la nuit vint, nuit terrible, car je souffrais plus qu'on ne peut s'imaginer des tortures de la faim. Le lendemain, je m'aperçus que les eaux baissaient et que les glaçons cessaient d'agrémenter la surface du Mississippi. À l'aide de mon Bowie knife, je coupai un faisceau de canne que je liais solidement avec des osiers, et quand je fus convaincu que ce radeau improvisé me porterait suffisamment pour pouvoir atteindre, en nageant avec les pieds, la rive la plus prochaine, je me laissai couler à l'eau. Il était temps. L'espace sur lequel les animaux et moi avions séjourné pendant 24 heures avait augmenté. La panthère, le chat sauvage, avaient retrouvé leur instinct et s'étaient rués sur une biche qu'ils dévoraient à pleines dents. J'avais quitté fort à propos mon refuge. La traversée du fleuve fut assez heureuse. J'abordai à 100 mètres d'une maison, sur le seuil de laquelle se tenait une bonne vieille femme qui regardait jouer 2 enfants confiés à sa garde. « Jésus ! » s'écria-t-elle. « D'où venez-vous ainsi, étranger ? » ?»« De l'eau, comme vous le voyez. » « Seriez-vous le camarade du Canadien que mon fils a sauvé de la mort il y a 2 jours ?»« Mais le Canadien est sain et sauf, lui dis-je. » « Ah, Dieu soit loué, je le croyais noyé. » Ben, « il a failli l'être, mais nous l'avons frictionné à temps et ramené à la vie. En ce moment, il est allé avec mon fils et mes 2 neveux à votre recherche, étranger. » La brave femme m'expliqua en détail comment le sauvetage de mon batelier avait été opéré. Pendant ce temps-là, je changeais de vêtements et je dévorais quelque nourriture que m'avait offerte la bonne et hospitalière vieille. Puis je demandai à dormir et j'allais m'étendre sur un sac rempli de paille devant le foyer de la cheminée. Quand je me réveillais, le Canadien et mes hôtes étaient près de moi. Comme je bénis la Providence qui m'avait tiré d'un aussi grand danger !